sur Radium. J'espère que vous allez bien. Je suis en bonne compagnie. Il y a Séverine, Christine et Chloé. Comment allez-vous, les filles?
Bonjour, on va bien.
Dimitri, comment vas-tu?
Moi, ça va toujours.
Dimitri, il se passe quelque chose de mystérieux dans le studio. Je viens de sentir des choses, pas vous, les filles?
Si.
Oh, il y a une ombre noire derrière toi. Non, ne vous inquiétez pas, cette ombre noire, c'est Belphégor. Une mini-série de 1965, produite par Claude Barma. Avant, elle hantait le Louvre. Oui, je dis bien, elle hantait le Louvre. Tout ça pour une pierre mystérieuse et une feuille mystérieuse qui est des Rose-Croix et la pierre de Paracel. Souvenez-vous de ce générique qui faisait comme ceci. Mystérieuse. Comment vous expliquer? On remonte le temps en 1965. Claude Barma a eu l'idée d'adapter un roman d'Arthur Brennedd, Belphégor. Mais je dis bien adapté, puisque les personnages de ce roman ne portent pas les mêmes noms que les personnages de la série. Pour son rôle phare, même pour son double rôle phare, il utilise une jeune chanteuse de l'époque. Si je vous dis « Déshabillez-moi », vous dites Juliette Gréco, qui joue le rôle de Julie et Stéphanie Iker. Petite anecdote par rapport à Juliette Gréco, un jour elle allait chanter en Suisse et le douanier lui dit « Rien à déclarer, Belphégor ?» Pour le rôle du jeune Lestrade, il utilise un jeune homme qui a déjà joué dans une série, les Globetrotters, Yves Régnier, et qui sera, 30 ans plus tard, le célèbre commissaire Moulin. Christine Delaroche, une jeune modèle, jouera le rôle de Colette Ménardier, la fille de l'inspecteur. Le commissaire Ménardier sera joué par François Chaumette sera Lord Williams. L'histoire se passe donc un soir dans le Louvre. La jeune Colette et le jeune Pierre André Lestrade se font prisonniers enfermés dans le Louvre, car on dit qu'il y a un fantôme qui rôde. Et ce fantôme, il le voit, grand, noir, se mettant à genoux devant une statue qui était la statue de Belphégor, une divinité égyptienne. La statue s'illumine et soudain un coup de feu et un sifflement. Le fantôme disparaît. Les lieux de tournage sont tout simplement Paris, le marché aux puces de Saint-Ouen, le Vésiné, une villa assez paniquante qui était celle de Lord William, et de sa mère, Lady Phonographe, qui était jouée par la comédienne Sylvie. À l'époque, cette femme avait joué pour Marcel Pagnol, entre autres. Oh, encore une ombre dans le studio. Attention, Peut-être que Belphégor est avec nous, ou l'esprit d'Antoine Duhamel qui a écrit la musique de ce générique fabulé. Le commissaire Thénardier mène l'enquête avec sa fille et le jeune André Belgrade qui va les emmener au fin fond des cœurs du Paris. Dans les endroits les plus sombres, une vieille casse auto. Le musée du Louvre, donc, où on découvre un passage secret qui mène directement sur les bords de la Seine et où l'on s'aperçoit qu'en fait, le fantôme n'est pas si fantomatique que ça puisque c'est un médium qui est joué par Isaac Alvarez, qui joue aussi le rôle du valet de Lord Bellegarde. Parlons du commissaire Thénardier. Il a joué aussi dans Les Compagnons de Bal et dans d'autres séries. Moi, ce que je vous invite à écouter, c'est le thème du commissaire Thénardier. Allez-y, commissaire, à vous. Des câbles ont survolé le studio de Radium. Des chaises ont bougé. Et le canapé qui est à côté a bougé et a bloqué presque toute la porte du studio. Pour continuer notre histoire, Yves Darry, qui joue le commissaire Thénardier, rencontre deux jumelles, Laurence et Stéphanie Iker. Laurence tombe amoureuse du jeune Bellegarde. Et en alternance, elle lui présente un mystérieux homme, Lord Williams, qui lui est joué par François Chaumette de la Comédie Française. Cet homme est mystérieux. Il a une mère qui est un petit peu folle, Lady Williams, qui, elle, se prend pour Lady Phonographe. Une vieille star des années phonographe, les années 20. Elle a peur de tout. Elle vit dans une maison au milieu du bois de Boulogne. J'ai peur rien que de vous raconter ça. L'ambiance de Belphégor est très sombre. La première diffusion était en 4 épisodes en 1965. La 7, et oui, la chaîne allemande, la 7, a diffusé en 92 la série en 13. Je dis bien 13 épisodes. Un chiffre particulièrement mystérieux aussi. Vous entendez les bruits dans le studio ? C'est bizarre. C'est peut-être l'esprit de la série qui nous hante, figurez-vous. Qu'au casting, il y a d'autres comédiens qu'on a pu voir dans d'autres séries, comme Yves Bureau, le marchand, Paul Cambeau, Germaine Delavoye, Jean Michaud et plein d'autres. Paris est aussi un des personnages de cette série, comme je vous le disais tout à l'heure. Une très belle scène au marché aux puces se déroule dans tous les stands. Pour y être déjà allé, je peux vous dire que même à notre époque, le marché aux puces est assez flippant. Et qui se souvient aussi de cette scène avec cette célèbre Rolls-Royce où Christine Delaroche, Colette Ménardier, regarde à la fenêtre et voit cet énorme berger allemand qui a été repris dans le film des années 2000 avec Sophie Marceau. Je dis bien une reprise parce que le film, pour moi, était plus fantastique que mystérieux. Mais on en parlera plus tard. Pour le moment, continuons à parler de cette série. Lady Belga, Lady Williams, la mère de Lord Williams, a un horrible secret. Elle connaît les Rose-Croix. Les Rose-Croix est une société secrète qui date du siècle dernier. Ils avaient la possibilité de transformer le plomb en or et le fer en plomb. À l'origine, dans le roman, Belphégor ne cherchait pas du tout la pierre de Paracelse. Belphégor cherchait surtout le trésor des rois de France. Mais pour les gens qui aiment bien la lecture, ça vous rappelait pas un autre héros de la série des Arsène Lupin, qui lui aussi cherchait le trésor des rois de France? Et oui, la série Arsène Lupin était en écriture à l'époque, et on ne pouvait pas mélanger les deux genres. Une autre histoire. Figurez-vous que tout le Louvre a été reconstitué dans les studios de Saint-Maurice. Vous me direz, Saint-Maurice, c'est dans le Var. Ben non, pas du tout. C'est à côté de Meaux, dans le Val de Marne. Il y a plein de beaux films qui ont été tournés dans ces décors, entre autres Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, La Traversée de Paris avec Jean Gabin, Louis de Funès et Bourville, de Claude Autant-Lara, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, la toute première version. Et oui, toutes les scènes étaient tournées dans ce très beau studio de Saint-Maurice, où maintenant on y tourne certaines séries comme Julie Lescaut, comme le groupe Flag, et comme certaines séries des années 90 qui ont fait les bonheurs de TF1. Un autre film très important, si je vous dis « Il est l'or, monseigneur, l'or de vous réveillor », et oui, La folie des grandeurs a été tournée là-bas aussi, à Saint-Maurice. Mais revenons à Belphégor, un dossier très palpitant et très passionnant. La musique est de Antoine de Duhamel. Il a écrit d'autres séries, mais très peu intéressantes, qui sont passées à l'oubliette. Qui est Claude Barma, le producteur de la série ? On connaît très bien sa fille, puisque sa fille a produit plein d'émissions pour France 2, dont on a tout essayé. Eh oui! Les épisodes, les 13 épisodes s'appelaient Le Rendez-vous du Fantôme, Le Louvre, Belphégor attaque, Ménardier dans l'impasse, Le Guet-apens, Le secret du Louvre. Quel est le secret du Louvre, vous me direz? Évidemment, cette mystérieuse pierre de Paracelse, et avec ses mystérieux rose-croix, qui étaient un genre de franc-maçon à l'époque. Tous les comédiens, figurez-vous, étaient accostés pendant la diffusion de la série, et on leur demandait « Alors, qui est Belphégor ?» Il n'avait pas le droit de répondre. Claude Barma avait fait signer des contrats aux comédiens avec une petite phrase qui leur disait « Ne pas dévoiler le secret ». Les décors aussi sont très importants dans cette série. Comme je vous disais, le château de Médan dans le Val d'Oise était la demeure de Monsieur Williams. le pavillon du Vésinet était la maison de Lady Oldwing, en plein milieu des bois. Cette maison existe toujours. Le Louvre, évidemment, la cour du Louvre, la cour d'honneur, avant qu'elle ne s'appelle la cour de la pyramide. Et là, tout le monde s'endort dans le studio parce que il y a une ambiance assez feutrée et assez bizarre. Il faut savoir que, pour l'époque, la série a très bien marché. Elle a fait une grosse part d'audience. Du 6 au 24 mars 1965, 10 millions de spectateurs ont regardé la série pour une population de 48 millions, dont seuls 40% avaient la télévision. Juliette Gréco a joué par la suite une femme assez mystérieuse dans La Féline de Claude Autant-Lara. Mais ça, on en reparlera aussi plus tard. Revenons au Louvre et au décor qui avait été créé dans les studios de Saint-Maurice. Toutes les statues avaient été refaites à l'identique, dont la célèbre Vénus de Millau, la femme sans bras. On ne voit pas la Joconde, mais on en parle dans le roman, puisque dans le roman, l'inspecteur Bocock voit un mystérieux signe dans le tableau de Léonard de Vinci qui amène justement au roi de France. À l'époque de la sortie de Belphégor aussi, du roman bien sûr, il y a eu un autre roman qui a fait parler de lui, c'était Fantômas. Assez mystérieux aussi. Paris était en panique. Tout le monde voulait savoir qui était Fantômas et qui était Belphégor. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les comédiens n'avaient pas le droit de donner le nom de Belphégor. Était-ce Stéphanie, sa sœur, donc Juliette Gréco, qui jouait les deux rôles? Était-ce le commissaire Ménardier, parce que lui aussi avait quelques petits secrets dans Belphégor? Était-ce tout simplement André Bellegarde qui jouait les gentils et les simples, mais qui, pour l'intrigue, était aussi mystérieux? Ou alors la célèbre Lady Williams, qui meurt malheureusement au bout du troisième épisode, dans une galerie assez bizarre qui n'était autre que la galerie des décors des studios de Saint-Maurice. J'ai encore des frissons. Attendez, j'entends des voix. On me dit que c'est Juliette Gréco qui était l'assassin. En fait, vous avez compris, Juliette Gréco était l'assassin, était Belphégor. Mais ce rôle a tellement joué sur Juliette Gréco qu'elle a gardé ce look assez mystérieux et a fait d'elle ce qu'elle est devenue, une femme très sombre. Oh mon Dieu. Une femme très sombre et une chanteuse très sensuelle. On reparlera aussi de Paris dans Les Mystères de Paris de Léo Mallet ou dans les années 50. Un mystérieux détective privé faisait les 400 coups. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine, mes amis. Pour le moment, continuons de parler de Belphégor. D'autres petites anecdotes sur la série. Entre autres, on a cassé la statue de Belphégor. Et oui, juste après le tournage, figurez-vous qu'un des techniciens voulant la porter, puisque c'était une statue faite de plâtre vide avec des spots à l'intérieur pour la luminescence de la statue, pour les fans qui connaissent la série de 1965, l'a fait tomber. Et heureusement pour eux, il n'y en avait pas d'autres. Le costume de Belphégor est actuellement au musée du cinéma, à côté de l'ancien Bercy. Il y a plein de vêtements de la série, dont la robe de Juliette Gréco dans la série, le peignoir de Juliette Gréco, le costume de Belphégor, bien sûr, et plein d'autres accessoires, d'autres séries et d'autres films. Que dire sur cette série ? Qu'elle existe, bien évidemment, en dessin animé, et que c'est France 3, à l'époque, qui a produit ce dessin animé un petit peu fantastique aussi, mais un petit peu pour les jeunes, je dirais. Où on retrouve un André Bellegarde adolescent qui poursuit un Belphégor mi-femme, mi-homme, androgyne, on ne sait pas trop ce que c'est. Le dessin animé est franco-italien, et il s'appelle Belphégor. Il y a eu aussi une bande dessinée. Il y a eu aussi, entre autres, un autre film qui est eu Belphégor. Moi, ce que je vais vous proposer, qu'est-ce que vous en pensez, les filles, de cette série ? Elle est mystérieuse, hein ?
Oui, effectivement. Ouais.
Moi, je vais vous proposer le générique de fin de la série. Et on se retrouve pour une prochaine émission. À très vite. Elle sera peut-être plus gaie, cette émission. Le fantôme s'en va ! À bientôt !
À bientôt.